Hi-Fi. 9h30 à Paris, 8h30 en temps universel. RFI vous informe. Bonjour Xavier Besson.
Bonjour Juan, bonjour à tous. Et nous aussi, nous parlons ce matin du Sénégal avec une confirmation et un chiffre à la une. Aujourd'hui, le FMI, le Fonds monétaire international, confirme, comme l'assuraient les autorités, que l'administration précédente du temps de Macky Sall a bien caché une partie de la dette du pays. Et ce chiffre, c'est l'estimation du FMI qui assure qu'entre 6 et 7 milliards de dollars ont ainsi été dissimulés. Correspondance à Dakar dans un instant. Dans ce journal également, le Burkina Faso, où le président de la transition tente de récupérer de l'argent de la part des banques burkinabées. La Côte d'Ivoire, avec le début du procès d'Abdoulaye Fofana, ancien aide de camp de Guillaume Soro. Et puis on s'intéressera à la vanille malgache, secteur en grande difficulté en ce moment, sur fond de dégringolade des cours de la vanille. Le Fonds monétaire international vient donc apporter de l'eau au moulin des nouvelles autorités de Dakar. En septembre dernier, quelques mois après l'arrivée au pouvoir de Bassirou Diomaye Faye, le Sénégal avait pointé des erreurs dans les chiffres officiels des finances publiques de l'administration précédente. Le mois dernier, la Cour des comptes sénégalaise a affirmé qu'une partie de la dette du pays avait été cachée par les équipes de Macky Sall. Ce que vient donc aujourd'hui confirmer le FMI à Dakar, la correspondance de Léa Lisa Westerhoff.
Il y a eu une décision très consciente, je cite, de sous-estimer la dette pendant les 5 dernières années, affirme Eddy Gemayel à la tête de la délégation du FMI. Un montant délibérément caché qui s'élève à 7 milliards de dollars environ et qui correspond à la différence entre les deux estimations de la dette publique, celle déclarée sous l'administration Macky Sall à plus de 70% du PIB et celle calculée par la Cour des comptes qui se situe à près de 100% du produit intérieur brut. Dans tous les cas de figure, c'est un montant très élevé qui creuse le déficit public du Sénégal et qui a provoqué la suspension du prêt du Fonds monétaire international. Ce prêt ne pourra reprendre qu'une fois que les autorités sénégalaises auront identifié quels mécanismes ont permis de dissimuler la réalité de la dette. Il faut également que des mesures correctives soient adoptées, assure le FMI, pour éviter qu'un tel cas ne se reproduise. Le FMI devra ensuite décider dans les semaines qui viennent si le Sénégal décroche une dérogation ou si l'institution internationale demande à Dakar de rembourser ce qui a déjà été prêté par le FMI avant de reprendre un nouveau programme. Léa Lisa Westerhoff, Dakar, RFI.
Et notez que le chef de la délégation du FMI était notre invité Afrique ce matin. Entretien à réécouter sur RFI.fr et sur Pure Radio. Affaires économiques, affaires de dette, le sujet nous amène aussi ce matin au Burkina Faso avec ce qui commence à ressembler à un bras de fer entre le président de la transition et le secteur bancaire. Le capitaine Ibrahim Traoré qui explique avoir demandé aux banques de payer un quart de l'argent placé sous forme de dépôt à terme aux sociétés d'État. Les autorités et les populations en ont besoin, dit le chef de la junte à Ouagadougou. Mais les banques sont réticentes, dit-il aussi. Charlotte Cossé.
La dette intérieure du pays dépassait les 7 milliards d'euros fin 2024, en augmentation de 20% par rapport à l'année précédente. Afin d'en rembourser une partie, le capitaine Ibrahim Traoré veut donc récupérer 25% des placements des sociétés d'État, sans préciser le montant que cela représente.
On veut notre argent pour faire du travail. Les gens trouvent qu'ils ne peuvent pas donner l'argent, parce que ça va affaiblir leur banque. Soit on se comprend vraiment autour d'une table, ou bien on va passer à une autre méthode. Et ce matin, je tenais à faire cette déclaration pour que vous compreniez que la bagarre qui va commencer, la poussière va se soulever, comme on aime le dire.
Selon le principe, ces placements doivent être conservés à la banque pour une certaine durée de temps afin de pouvoir toucher les intérêts, ce qui n'empêche pas l'État de rompre le contrat.
Au pire, il y aura peut-être des pénalités.
Elfried Didéa est banquier de profession. Il a travaillé à de hautes fonctions dans plusieurs établissements bancaires panafricains.
L'environnement économique peut faire que les institutions bancaires peuvent se retrouver un peu à court de liquidité, donc en difficulté pour restituer ces sommes-là. Maintenant, il faudrait une bonne volonté que de part et d'autre, la liquidité soit mise à la disposition de l'État pour faire face à ses obligations ou ses nouvelles priorités sans mettre à mal le secteur bancaire.
Si la croissance est à la hausse, l'inflation a cependant grimpé de 3 points et les besoins de dépenses publiques restent importants. Le président de la transition a donné jusqu'à fin mars aux banques pour libérer ses ressources.
Charlotte Cossé, le Burkina Faso, où l'on apprend par ailleurs alors que le président et le vice-président de l'association des journalistes du Faso ont été enlevés hier matin, embarqués par des hommes en civil et emmenés vers une destination inconnue. La veille, leur organisation a publié un communiqué dénonçant la mainmise de la junte au pouvoir à Ouagadougou sur les médias dans le pays. En Côte d'Ivoire, le procès de l'ancien aide de camp de Guillaume Soro s'est ouvert hier au tribunal d'Abidjan. Le commandant Abdoulaye Fofana, mais aussi une quinzaine d'autres prévenus poursuivis pour complot contre l'autorité de l'État et atteinte à l'ordre public. Sur place, Binda Diagne.
Le commandant Abdoulaye Fofana a rejoint la rébellion en 2002. Il devient l'aide de camp de Guillaume Soro lorsque ce dernier est Premier ministre puis président de l'Assemblée nationale. En 2019, une mesure de reversement des militaires détachés auprès de Guillaume Soro est enclenchée. Abdoulaye Fofana est radié car il n'a jamais rejoint son unité, à savoir la garde présidentielle. Démarre ensuite une période d'exil. Abdoulaye Fofana s'installe en France. Au bout de quelques mois, il décide de revenir au pays. La justice l'accuse de vouloir enlever le président de la République pour renverser le gouvernement et instaurer un organe de transition. Direction d'abord le Burkina, puis Abdoulaye Fofana entre en Côte d'Ivoire par la route à Ouangoloudougou, où il rencontre un de ses présumés complices chargé de neutraliser mystiquement certaines personnalités politiques et administratives. Arrêté en juin 2022 par la gendarmerie, Abdoulaye Fofana rejette ces accusations. Le 14 avril prochain, à la reprise des débats, il pourra donner sa version des faits. Il est par ailleurs inculpé dans une seconde affaire qui se tient en parallèle. Ce militaire à la retraite est accusé d'actes terroristes et de complot contre l'autorité de l'État dans le cadre des violences électorales de 2020. Bintayan Abidjan, RFI.
Et la justice au Tchad avec l'avocat d'Olivier Monodji qui se dit ce matin confiant après l'audition de ce dernier par un juge d'instruction hier. Olivier Monodji, directeur de publication de l'hebdomadaire Le Pays, également correspondant de RFI N'Djamena, entendu donc par un juge hier. On rappelle qu'il avait été arrêté au début du mois et qu'il est depuis soupçonné d'intelligence avec une puissance étrangère. Dans l'actualité ce matin également, le Soudan, la guerre au Soudan, d'après le collectif d'avocats Emergency Lawyers, une frappe de l'armée soudanaise sur la ville de Tora dans la région du Darfour Nord a fait des centaines de victimes, assurent ses avocats, et des dizaines d'autres qui sont gravement blessés. Alors qu'au Soudan du Sud, les Nations Unies font savoir que le pays connaît sa pire épidémie de choléra depuis ces 20 dernières années. 40 000 cas et plus de 700 décès ces 6 derniers mois. Le Soudan du Sud, où l'on apprend aussi que l'armée a bombardé hier soir une base de l'opposition près de Djouba, la capitale sud-soudanaise. Cette question maintenant à Madagascar. Quelle politique de la vanille pour la grande île? Le Conseil des ministres vient de présenter les chiffres de la filière et ils ne sont pas vraiment très bons dans un contexte où le prix de kilo de vanille a dégringolé, passant de 700 dollars en 2018 à 20 dollars attendus pour la prochaine campagne. Et Madagascar a trop produit. Il y a 2000 tonnes de vanille malgache en surstock. C'est plus de la moitié du total de tout ce qui a été acheté l'an dernier sur la planète. Et en attendant, les autorités d'Antananarive tentent de contenter à la fois les acheteurs et les producteurs. Sarah Teto.
Depuis 5 ans, le gouvernement promet un assainissement de sa filière phare. La liste très attendue des exportateurs agréés pour cette nouvelle saison est censée évincer les opérateurs qui n'ont pas respecté les règles du jeu lors des précédentes campagnes. Dans les tuyaux également, un prix plus juste payé aux planteurs. En 2019, le tarif de 50 000 arrières le kilo de vanille verte avait fait consensus entre le SVI, le lobby des acheteurs internationaux de la vanille, et les acteurs malgaches. Aujourd'hui, dans les campagnes, les prix annoncés aux planteurs sont plutôt autour des 3 000 arrières, moins de 1 dollar.
Payer 3 000 arrières est indécent.
Georges Gerhardt est le président du groupement des exportateurs de vanille de Madagascar.
C'est moins que les tomates, alors qu'on a affaire à un produit qui nécessite beaucoup de soins et des années d'attente avant de produire. Donc, pour le bien de la filière et son futur développement, il faut absolument redresser ce prix minimum qui a déjà fait l'objet de nombreuses études et sur lequel beaucoup de gens s'accordent.
Rassurer les marchés sur la qualité intrinsèque du produit et sa durabilité, voilà la stratégie adoptée en ce moment par Madagascar. Mais il faut aller encore plus loin, soutien Georges Gerhardt.
Il y a un travail à faire sur des marchés émergents. L'Asie, le Moyen-Orient pourraient être intéressés par le produit vanille et sur ces deux axes, il faut absolument travailler.
Fin avril, un symposium international sur la vanille sera organisé à New York. À la une des discussions, un grand état des lieux du secteur. Aucun malgache n'a été invité. Malgré les soubresauts dans la filière, la Grande Île reste le premier producteur mondial de l'épice. Sarah Teto, Antananarivo, RFI.
Madagascar qui a perdu hier. Un mot de football avant de rendre le micro à Juan Gomez. Pas moins de 15 matchs sont au programme aujourd'hui. Éliminatoires pour la prochaine Coupe du Monde. On suivra notamment le Sénégal face au Togo, le Cameroun contre la Libye. Après 8 matchs déjà hier, victoire de la Côte d'Ivoire 1-0 en Gambie, défaite de Madagascar donc au Ghana. Et tous les résultats et le programme, vous le savez, Juan, c'est sur africfoot.rfi.fr.
Évidemment. Merci Xavier Besson. Bonne journée. 9h40 à Paris, 8h40.